Bonjour à tous. Travailleuses, travailleurs, chers camarades et amis. Le 28 janvier, nous sommes appelés à voter dans la première circonscription du territoire de Belfort. Je me présente à cette élection parce que je pense qu'il ne faut pas laisser les seuls candidats des partis représentant les riches prendre la parole et prétendre nous représenter. Je veux, dans cette élection, faire entendre le camp des travailleurs. Je suis ouvrier de fonderie Adel. Comme beaucoup d'entre vous, salariés, retraités ou chômeurs, j'appartiens au monde du travail et j'en partage les problèmes. Les salaires bloqués, les fins de mois difficiles, la hantise de voir la facture du chauffage exploser, la peur que les enfants ne trouvent pas de travail. Et je sais aussi qu'une fois à la retraite, la galère continue. Et ce ne sont pas les retraités qui subissent la hausse de la CSG qui vont me contredire. Comme ceux qui sont en activité, je subis la pression patronale, l'offensive permanente pour supprimer des emplois. Quand j'ai été embauché, il y a 35 ans chez Tekla, comme les anciens l'appellent encore, nous étions plus de 1 000 dans cette fonderie sous-traitante de l'automobile. Aujourd'hui, à force de dépôt de bilan, de ventes et de reprises, soldés à chaque fois par des fermetures d'ateliers et des plans de licenciement, nous nous retrouvons plus ou moins 180 au total. 180 dans deux secteurs de l'ancienne usine, maintenant deux entreprises différentes. À Eurocast, ex-secteur aluminium repris par le groupe GMD, qui s'est illustré récemment avec donc le rachat du groupe GMS, c'est jour et nuit, en 3 à 8, samedi et dimanche, que 160 travailleurs, dont une majorité d'intérimaires en production, doivent produire toujours plus et plus vite. Et ça, uniquement pour satisfaire les exigences de PSA. À DFI, l'ancien secteur Zing, là où je travaille, les moules de fonderie sont partis dans d'autres usines du groupe. Maintenant, le transfert des découpoirs a commencé et nous restons à peine 20, sachant que c'est la fermeture de l'usine qui est programmée. Alors les ordonnances Macron, comme nombre de mes copains de boulot, j'en ai déjà un aperçu. Et maintenant, avec les ruptures conventionnelles collectives, les patrons pourraient supprimer encore plus facilement des emplois en douce et à moindre prix, bien plus que les ruptures individuelles dont ils usent et abusent déjà. Et pourquoi tout cela? Pour que les groupes capitalistes amassent des milliards de profits qui iront directement à la spéculation, pour que les riches voient leur fortune grandir, pour qu'une minorité se présasse dans le luxe. Et d'ailleurs, la société n'a jamais été aussi riche. Une étude publiée en début de semaine a montré que les 5% des plus riches verront cette année leurs revenus augmenter de 1,6%, soit 1 730 euros de plus par ménage. Par contre, les 5% les plus pauvres, eux, verront leur niveau de vie reculer de 0,6%, 60 euros de moins par ménage. Voilà la réalité de la reprise de l'économie que vantent Macron et ses ministres. Ça va toujours mieux pour les actionnaires, pour les nantis, les bourgeois, et toujours moins bien pour les travailleurs et les pauvres. Macron appartient au monde des nantis. Le tiers de ses ministres est millionnaire, et c'est pour les riches qu'il gouverne. Sa ministre du Travail, Pénicaud, exonérée de Danone, a une fortune estimée à 7,5 millions d'euros. Grâce à la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, l'une des toutes premières mesures ô combien symboliques prises par le gouvernement, Pénicaud, elle, va gagner 62 000 euros de plus par an tous les ans, soit l'équivalent du salaire annuel de 4 travailleurs payés au SMIC. Rien à voir avec la suppression par petits bouts de la taxe d'habitation censée donner du pouvoir d'achat. Rien à voir avec la diminution des cotisations sociales sur nos fiches de paye. Une diminution payée par nos parents retraités qui vont subir de plein fouet la hausse de la CSG. Et de ça, la bourgeoise Pénicaud n'est pas du tout gênée. Au contraire, elle expliquait l'autre jour à la radio que cela lui permet d'investir dans l'économie sociale et solidaire, et donc de créer des emplois. Ben voyons, pour un peu, il faudrait la féliciter. Ce gouvernement, comme ses prédécesseurs, nous serinent et veulent nous persuader que ce qui est bon pour les riches serait bon pour les pauvres. Eh bien non! Ce qui est bon pour les riches n'est bon que pour les riches. Alors, quand les prétendus experts économiques au service du gouvernement osent affirmer que le SMIC est trop élevé, que les retraités doivent se serrer la ceinture, il faut leur répondre. Il faut se faire entendre. Même minoritaire, voire très minoritaire, il faut que cela soit dit haut et fort et sans ambiguïté. Les élections ne peuvent changer notre sort, mais c'est très important d'être le plus nombreux possible à exprimer notre refus de laisser Macron piétiner nos droits et les grands patrons d'imposer leur diktat sur la société. Oui, Pousser un coup de gueule, c'est bien la seule solution à faire avec son bulletin de vote le 28 janvier prochain. Puisqu'on nous demande notre avis, donnons-le. Et ce n'est pas qu'un coup de gueule, c'est aussi affirmer notre camp, nos revendications vitales. Une députée du parti de Macron se plaignait récemment qu'avec 5 000 euros par mois, elle était contrainte de manger plus souvent des pâtes. Qu'elle essaye donc de vivre avec le SMIC ne serait-ce qu'un mois. Un revenu décent pour tous, cela voudrait dire qu'aucun salaire, aucune pension ne devrait être inférieur à 1 800 euros net par mois. Oui, c'est ce qu'il faudrait. C'est un minimum pour pouvoir boucler son budget. Il nous faut de quoi vivre, mais il nous faut aussi mettre fin au chômage qui mine la société et d'abord ceux qui en sont les victimes. Le gouvernement et le patronat prétendent faire de la lutte contre le chômage et de la création d'emplois leur priorité. En fait, ils l'organisent. Les patrons en licenciant, le gouvernement en les aidant à le faire. On n'y a qu'à voir comme récemment les patrons comme PSA se jettent sur les ruptures conventionnelles collectives permises par les ordonnances. Le gouvernement supprime des postes dans tous les services publics. Il a mis fin aux emplois aidés. Toutes les administrations suppriment des emplois ou transforment ceux de fonctionnaires en emplois précaires, en temps partiel. Par manque de personnel, on court dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, la poste. Partout, les effectifs sont réduits parce que l'État diminue les impôts des riches et des grandes entreprises. Alors, pour mettre fin au chômage, il n'y a pas d'autre moyen que d'interdire les licenciements et de répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Cela veut dire utiliser les richesses de la société pour que chacun ait un emploi et un salaire correct au lieu de gaver les actionnaires. Les sociétés du CAC 40 ont distribué l'an dernier 44 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Rien que ces 44 milliards pourraient permettre de donner un salaire à 1 million de personnes. Ce serait bien plus utile que d'enrichir toujours ceux qui ne savent plus quoi faire de leur fortune. Voyez, General Electric, GE, champion de distribution de cash aux actionnaires. 26 milliards d'euros, mieux qu'Apple, qui continue de supprimer des emplois dans le monde. Alstom Transport, qui a augmenté son bénéfice de 66% au premier semestre. La famille Peugeot, quatrième fortune française de Suisse, qui a vu son magot augmenter de 2 milliards en un an. On n'aurait pas assez de la journée pour les évoquer tous. Prenez le CICE, le bien mal nommé crédit, impôt, compétitivité, emploi, que touchent les entreprises, y compris Peugeot qui a supprimé 25 000 emplois en 5 ans. Le CICE coûte aux finances publiques 41 milliards d'euros tous les ans, soit l'équivalent d'un salaire d'un million de personnes aussi. Oui, les moyens existent pour embaucher afin de supprimer le chômage et d'augmenter les salaires, pensions et allocations. Oui, mais ces moyens, il faudra les arracher aux possédants. L'actualité de ces dernières semaines a mis sur le devant de la scène l'entreprise Lactalis, propriété de la 8e fortune de France, Emmanuel Beignet. Impossible de savoir quels sont les comptes de Lactalis, le groupe ne les publie pas. Il ne fait même pas de semblant de jouer de la transparence, il préfère payer une amende plutôt que de les publier. Dans le scandale Lactalis, médias et gouvernement pointent le secret de l'entreprise. Autrement dit, le scandale résulterait d'une situation exceptionnelle causée par un dirigeant très spécial. Mais le secret des affaires est la règle générale, même si chez Lactalis, elle a été poussée à l'extrême. C'est toujours dans le plus grand secret que les entreprises se rachètent, s'externalisent ou se découpent. À chaque fois, les actionnaires s'en mettent plein les poches et les travailleurs vont planter à Pôle emploi. C'est ce que je vis depuis que je travaille, Adèle. C'est ce que vivent de nombreux travailleurs d'Alstom, de GE, de Peugeot et de bien d'autres. Alors, je vous propose de dire avec moi dans cette élection qu'il faudrait imposer le contrôle des comptes et des agissements du grand patronat et des banques par les salariés. À Lutte ouvrière, nous sommes communistes. Nous n'acceptons pas cette société capitaliste qui génère crise, guerre, famine d'un bout à l'autre de la planète, obligeant des millions de femmes et d'hommes à fuir leur pays. Les migrants sont victimes de tout cela. Ils subissent aussi la montée des nationalismes du fait de la survivance de ce système capitaliste décadent. Alors, nous devons les accueillir. Les accueillir comme des frères, comme des hommes et des femmes qui ne peuvent plus vivre chez eux, dans leur pays, et ce, quelle qu'en soit la raison. Oui, nous revendiquons la liberté de circulation et d'installation. Si les frontières étaient ouvertes, il n'y aurait jamais eu de jungle à Calais. Il n'y aurait pas eu de trafic de passeurs et ceux qui fuient pourraient trouver refuge. Et puis, de quoi parle-t-on? 250 000 migrants environ viennent chaque année. En quoi serait-ce un problème insurmontable? Il y a 2,9 millions de logements de libres dans notre pays. Il suffirait d'en réquisitionner une petite partie pour y loger non seulement les migrants, mais les SDF, tous les SDF contraints de dormir dehors. Le droit de vivre ailleurs. Le droit de vivre dehors, le droit de vivre ailleurs que là où on est né est un droit reconnu à 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Pourquoi ce droit n'est-il pas reconnu à ceux qui sont contraints de fuir? La démagogie faite contre les migrants est tout simplement écœurante. Et cette situation dit toute l'urgence de changer cette société inhumaine. Il y a un siècle, les travailleurs et les paysans de Russie ont montré que les opprimés avaient la force et les moyens de prendre le pouvoir, de renverser le régime tsariste en place depuis des siècles, accélérant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale. C'est de ce combat-là dont nous nous revendiquons. Même si la révolution russe, en restant isolée, a échoué à changer le monde et que le régime issu de cette révolution a dégénéré. Parce que nous sommes communistes, nous avons la conviction chevillée au corps que seuls les opprimés, les travailleurs qui font fonctionner toute la société, ont la possibilité d'en construire une autre basée sur la satisfaction des besoins des hommes et non du profit capitaliste. La force des travailleurs est immense, à condition que nous en prenions conscience. Il y a tout juste 50 ans, en mai-juin 68, c'est la grève générale qui fit lâcher à De Gaulle une augmentation du SMIC de 35%. En 36, c'est la grève générale qui imposait la semaine de 40 heures, les congés payés et les conventions collectives à un patronat aux abois face aux occupations d'usines. Notre force, ce sont les luttes massives et débordantes. Il n'existe pas d'autre moyen de changer notre sort. Alors profitons des élections pour le dire haut et fort. S'abstenir, c'est se taire. On nous donne l'occasion de dire ce qu'on pense, alors ouvrons-la. Convaincons. Convaincons, amis, voisins, collègues de travail de voter lutte ouvrière, de faire un vote ouvrier, un vote communiste. Nous sommes minoritaires, et alors, les idées que nous défendons sont les idées de l'avenir. Car ce n'est pas au capitalisme, à son cortège de misère, qu'est l'avenir de la société. Il est à une autre société. Il est aux revendications que nous défendons dans cette campagne. Et chaque voix pour elle donnera du poids à ses idées. Bien sûr, le bulletin de vote ne peut pas changer notre sort. Ceux qui mènent le monde ne sont pas élus. Patrons, banquiers, bourgeois exercent la réalité du pouvoir dans la société grâce à leur fortune et à leurs capitaux. Mais nous, les travailleurs, nous avons un autre pouvoir, celui de faire fonctionner toute la société. Sans nous, rien ne marche, rien n'est produit. C'est une force immense, considérable, et elle est intacte. Alors faites un vote de dignité et de fierté ouvrière, en votant pour un ouvrier comme vous, pour des militants communistes qui aspirent à libérer le monde du travail des chaînes de l'exploitation. En propageant l'électoralisme dans le monde du travail, les partis de gauche, le Parti socialiste, puis le Parti communiste, ont trahi les idéaux sur lesquels ils étaient fondés, le socialisme et le communisme, justement. Depuis des décennies, ils répètent qu'un bon gouvernement de gauche peut changer le sort des opprimés. C'est une illusion doublée d'un mensonge. Une illusion car le vrai pouvoir dans la société est dans les mains des groupes industriels et des financiers, pas dans celui des élus. Et un mensonge car c'est se remettre notre sort à des politiciens respectueux de l'ordre capitaliste, qu'ils s'appellent Mitterrand, Jospin, Hollande ou Mélenchon. Le Parti communiste en est réduit aujourd'hui à soutenir la candidate de la France insoumise, ici, et ailleurs à disparaître derrière ceux de Mélenchon à qui il a servi de marchepied. Les militants communistes sincères, les militants ouvriers doivent prendre conscience que l'électoralisme a mené le Parti communiste à son effondrement actuel. Dire que les élections peuvent changer notre sort, c'est endormir le monde du travail. C'est lui dire d'attendre. Et c'est nourrir les désillusions, parce que élection après élection, rien ne change en bien pour le monde du travail. C'est nourrir l'idée que puisque gauche et droite n'ont rien changé, il faudrait essayer n'importe quel autre démagogue sous prétexte qu'on ne l'a jamais essayé. Il n'y a rien à essayer dans les élections. Il y a affirmé des revendications, un camp, le nôtre, celui des travailleurs. Dans cette élection, l'extrême droite est divisée entre les patriotes et le Front national. Les idées qu'ils propagent sont un danger mortel pour les travailleurs et les opprimés. Nous battons entre pauvres, entre Français immigrés, entre migrants d'hier et d'aujourd'hui, autour des miettes qui tombent du festin des riches. Voilà la politique de l'extrême droite, dont les idées sont alimentées, confortées par les nationalistes de tout poil qui prétendent que cela va mal à cause de l'Europe et de l'euro. Non, ça va mal à cause du capitalisme et de rien d'autre. Car c'est cette société que les opprimés de toute nationalité, de toute religion et toute couleur de peau doivent renverser. Ils doivent la renverser pour construire une société fraternelle. Il n'y a pas d'autre chemin que de renouer avec les idées communistes, avec les idées révolutionnaires, avec l'internationalisme qui est à l'origine du mouvement ouvrier. C'est pourquoi, au-delà des élections, il est indispensable de reconstruire un véritable parti ouvrier communiste, un parti capable de peser dans la vie politique, avec la présence que cela suppose dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Bien sûr, il ne se développera que lorsque la classe ouvrière aura repris confiance en elle, quand surgiront des dizaines de milliers de femmes et d'hommes prêts à se dévouer pour la cause de leur classe sociale, la cause ouvrière. Cela se produira comme dans le passé au travers des luttes, des grèves et des affrontements avec la bourgeoisie et son appareil d'État. Il ne dépend de personne de déclencher de tels événements et d'accélérer le cours de l'histoire. Mais il est possible et nécessaire de renforcer les bases de ce parti dès aujourd'hui. Car comment résister à la pression du découragement général en restant isolé? Être à contre-courant et le rester ne peut se faire sans se rassembler et se serrer les coudes, sans conforter ses convictions au travers des discussions et des liens que l'on tisse entre travailleurs qui partagent les mêmes idéaux. Se réunir, se rassembler dans un parti, c'est aussi passer de la passivité à l'action. Il est démoralisant d'assister sans rien faire et sans rien dire aux injustices et à toutes les horreurs qui se déroulent dans le monde. Mais y répondre, ne serait-ce que par la parole, communiquer une révolte, expliquer la situation politique à ceux qui nous entourent, c'est déjà agir et renforcer notre camp. Il est à la portée de chacun de participer d'une façon ou d'une autre à la construction d'un parti nécessaire pour changer la société. Même à contre-courant, il est possible de faire vivre et circuler ses idées, car c'est sans doute la plus belle tâche à laquelle on peut s'atteler aujourd'hui. Car n'en doutons pas, tôt ou tard, les opprimés se lèveront. Et ils trouveront dans ces idées la capacité de mettre les moyens de production au service de l'humanité tout entière. Ils feront en sorte que les immenses possibilités matérielles, techniques, scientifiques et humaines soient un jour la base d'une société libre et fraternelle. Une société qui assurera un avenir de paix et de progrès matériel pour tous. Pour dire qu'il faut que renaisse un tel parti, votez communiste, votez ouvrier. Votez et faites voter pour les candidats de lutte ouvrière afin que se fasse entendre le plus fort possible le camp des travailleurs.